On m'a demandé de vous parler ce matin du témoignage au naturel. Comment parler de sa foi, comment transmettre quelque chose de sa foi, comment vivre le témoignage. Et j'ai donné un titre à ma prédication de ce matin, qui est le suivant: Chrétien pour le meilleur et pour le dire. Et je vais prendre comme tremplin un verset de la première épître de Pierre au chapitre 3. Pierre écrit: Honorez dans votre cœur le Christ comme Seigneur. Je vais peut-être lire la même chose que qui est là. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent des explications au sujet de l'espérance qui est en vous. Vous noterez toutes sortes de choses dans ce verset, dans ce simple verset. D'abord, il dit soyez toujours prêts à répondre. C'est intéressant parce que nous ne répondons pas en général. Nous attestons avant même que les gens posent des questions. Et puis, soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent des explications au sujet de Jésus-Christ, au sujet de la Bible, au sujet de la Trinité, au sujet de... Non, au sujet de l'espérance qui est en vous. C'est intéressant quand même. Vous le savez, on ne peut pas vivre sans posséder un avenir, même s'il est sombre ou incertain. Or, l'espérance, c'est avoir un avenir. En deux mots. L'espérance, c'est avoir un avenir. Et aujourd'hui, un bon nombre de personnes sont désespérées parce qu'elles ont l'impression, ces personnes, qu'il n'y a pas d'avenir. Ou en tout cas que l'avenir est vraiment bouché. Et avant même de savoir comment être un bon témoin de l'Évangile, un bon témoin de la parole de Dieu, aujourd'hui, dans un monde qui réclame le bonheur, mais qui refuse le message qu'il apporte, il n'est pas inutile de se poser la question de savoir si l'Église et si les chrétiens qui composent l'Église vivent encore de l'espérance et de l'espérance qui vient de Dieu. Parce que si nous-mêmes n'avons plus beaucoup d'espérance, ou si notre espérance est pollué, écrasé par tout ce que nous pouvons vivre, alors c'est sûr que nous ne pourrons pas transmettre grand-chose, si ce n'est notre propre désespoir et notre propre doute. Il y a un verset dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que j'aime particulièrement. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais Jérémie 29, 11, je pense que c'est un verset que tout le monde connaît ou que tout le monde devrait connaître dans l'Église. Le prophète Jérémie rapporte une parole de Dieu qui est riche de sens et qui est la suivante: Je connais les plans que je prépare à votre intention, non des plans de malheur, mais de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. C'est extraordinaire, ça. Nous donner un avenir et une espérance. C'est plus qu'une promesse d'un changement maintenant. C'est une spécificité biblique, d'ailleurs, de ne nous proposer que des choses positives à venir. Il s'agit d'une promesse de vie et d'une promesse de salut. Et même si l'avenir est parsemé d'épreuves, l'avenir reste beau lorsqu'il est éclairé par Dieu. Espérer, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, en tout cas en tant que chrétien, c'est beaucoup plus que d'adopter une attitude positive envers la vie ou de cultiver cette pensée qui est de dire: bon, bah écoutez, après la pluie, le beau temps. L'espérance, quand elle est chrétienne, n'est pas un phénomène psychologique, ni un refuge. L'espérance ne souhaite pas un vague secours qui viendrait. L'espérance chrétienne offre le salut total. Parce que l'homme ne crée pas son espérance. Il ne fabrique pas son espérance. Il la reçoit. Si vous inventez, si vous créez, si vous fabriquez votre espérance, c'est une œuvre humaine. L'espérance, c'est ce que nous recevons de Dieu. Ces petites choses dites rapidement pour bien rappeler un certain nombre de choses, nous allons maintenant effectivement aller dans ce thème, dire Dieu, dire sa foi, témoigner, raconter Dieu et compter sur lui. Nous avons bien sûr tous envie en tant que chrétiens, après avoir découvert ou redécouvert la force du message de l'Évangile, nous avons tous envie de le partager naturellement. Nous devrions avoir envie de le partager. Déjà, si nous avons un doute à ce niveau-là, il faudrait peut-être remettre nos pendules à l'heure de Dieu, surtout aujourd'hui. Plus qu'une envie de partager la bonne nouvelle, c'est un devoir. C'est un devoir en tant que chrétien. Ne pas transmettre autour de nous le message qui donne la vie, c'est un acte coupable. Je me souviens d'une expérience vécue il y a fort longtemps de cela, parce que je commence à être un peu vieux. Ça s'est passé dans une église où j'étais il y a peut-être au moins 35 ans. C'était à Dunkerque, tout là-haut dans le nord. Un peu plus dans le nord, vous êtes dans l'eau. Et on était dans une assemblée évangélique, une assemblée chrétienne, présente là depuis fort longtemps. Et c'est une assemblée où, de temps en temps, le responsable disait « Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager aujourd'hui ?» Vous savez, parfois, quand on prend à l'improviste les gens, comme ça, on a un silence énorme, comme si, de toute la semaine, personne n'avait rien vécu avec le Seigneur. Ce qui est angoissant pour le pasteur, pour le responsable, pour le conseil, qui a besoin de partir en retraite. En retraite spirituelle, j'entends. Et là, il y a un vieux monsieur qui se lève, un monsieur qu'on ne connaissait pas. Et le monsieur dit, « Eh bien voilà, moi je voudrais vous dire quelque chose. Je me suis converti cette semaine. » Ouais, tout le monde était content. Ouais, bravo, super. Il dit, et il continue disant, « Mais j'ai 70 ans. Je suis né dans la maison en face de l'église. » Il vous a fallu 70 ans pour traverser la rue et venir me parler de Jésus-Christ. Alors je suis à la fois très heureux et pas content, parce que j'ai perdu une bonne partie de ma vie sans l'éclairage que d'un seul coup je découvre maintenant que j'ai fait ma vie. Vous savez, on a pris une claque ce jour-là, parce qu'en fait, il ne fallait pas 70 ans pour traverser la rue. Mais voilà. Parfois, nous avons énormément de mal pour traverser la rue, pour aller à la rencontre de l'autre. Ah, bien sûr, on peut faire des réunions missionnaires et penser à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Madagascar et ailleurs. Mais en face. Ouais, mais c'est tellement difficile d'atteindre les gens de l'extérieur. Ah ouais, mais enfin, au Burkina Faso aussi. C'est tellement difficile. Alors de temps en temps, je vous apporterai des expériences ou des choses que nous sommes en train de vivre dans notre Église. Mais par exemple, nous avons décidé, il y a un an, de faire la fête des voisins. On s'inscrit dans une culture, on s'inscrit dans quelque chose qui existe. Et on s'est dit, on va faire une fête des voisins, parce qu'on a des locaux un peu grands, on a une cour, c'est un petit peu, enfin, on est un peu plus nombreux, on a 350 places. Elles sont toutes prises. Donc, voilà. Cela dit, ce matin, ils sont tous ensemble pour un culte en commun à Valence, et je pense que là, ils doivent être à peu près 1300. C'est génial, hein ? C'est encourageant. 1300 moins 1, puisque je suis là. Bon, bref. Et on a fait cette fête des voisins, et les voisins sont tous venus. En tout cas, énormément de voisins sont venus, parce qu'il y avait de la place, parce qu'on avait organisé un barbecue, parce qu'il y avait toutes sortes de choses. Et les voisins n'attendaient qu'une chose. C'était de voir, mais qu'est-ce qui se passe dans ce machin-là ? On voit tout le temps des gens le dimanche, en semaine, etc. Et c'était l'occasion pour ces gens de découvrir quelque chose. Et ils ont trouvé ça tellement bien qu'ils nous ont demandé si on pouvait refaire ça, mais pas d'attendre nécessairement un an pour faire une fête des voisins. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on a attendu si longtemps pour faire un truc tellement bien ? Enfin, voilà. On a parfois du mal à traverser la rue. Si Dieu nous parle, et s'il nous met en route, s'il met aussi lui-même en route tout un processus pour nous sauver, Ce processus, qui passe d'ailleurs par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, ce qui n'est pas banal. Posons-nous la question de savoir pourquoi il fait cela. Pourquoi est-ce que finalement Dieu fait cela? Alors bien sûr, la réponse, elle est facile, beaucoup plus facile que l'histoire des cailloux. Par amour. Pour que nous passions de la mort à la vie, pour que la brebis perdue que j'étais soit retrouvée. Ok, d'accord. Et je repose la question, comme le professeur de tout à l'heure, là, hein, qui pose sans cesse la question. Et si je pose la question, pourquoi? Mais pourquoi en deux mots? Pourquoi? La réponse, afin que nous aimions à notre tour et que nous participions au salut des autres. En qualité de petit Christ. C'est la définition du chrétien, petit Christ. Nous sommes des petits Christ, des Lilliputiens Christ, hein. Pas exagéré, des nains de jardin Christ. Mais nous sommes des petits Christ, c'est-à-dire que nous sommes porteurs d'une information, d'une nouvelle. Afin que nous soyons ambassadeurs, annonceurs, témoins et même modèles. Ça, ça fait peur. Modèle. Et quand je vais à la rencontre des autres, je vais me rendre compte qu'il y a plusieurs types de personnes en face de moi à qui je dois apporter un témoignage. Il y a d'abord, et ça existe, heureusement, il y a les chercheurs de Dieu. Il y a des gens qui sont en quête, qui sont en recherche, qui ne savent pas exactement comment chercher, où chercher, mais ils ont un vide, ils ont une attente, ils ont une espérance. Ils perçoivent, ils ont des intuitions. Ils ont très peur d'aller dans des églises parce qu'ils ont peur d'être accaparés, d'être récupérés, d'être inféodés dans un système. Surtout le français. Le français est tellement individualiste. Ça tombe bien, le salut est personnel. Mais il y a des chercheurs de Dieu. Dans les expériences récentes autour de moi ou directement avec moi, il y a des choses que j'ai rencontrées. Il y a mon fils qui est cuisinier dans un petit restaurant de village. Et il m'a dit, l'autre jour, il m'a dit, j'ai besoin que tu me donnes une Bible pour les nuls. Je dis, je t'en ai déjà donné une. Il dit, oui, mais c'est parce qu'il y a un client qui vient de temps en temps au resto et qui se pose plein de questions. Il se pose des questions depuis que ses deux enfants sont devenus protestants. Lui qui était catholique, mais enfin catholique de loin. Voilà qu'il est interpellé par ses enfants qui ont une démarche religieuse, spirituelle. Alors il veut connaître. Et du coup, il devient chercheur de Dieu. Il y a par exemple, dans une église tout proche de chez nous, un nouveau pasteur, un pasteur qui a un itinéraire très particulier. Il était trader. Un trader qui se convertit. Il passe de mammon à Dieu. C'est incroyable. Mais dans son expérience, brusquement, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de complètement anormal. L'agence boursière, l'agence de placement dans laquelle il travaillait, s'était absolument enrichie, magnifiquement enrichie, au moment d'une crise où plein d'épargnants avaient tout perdu. Alors il sablait le champagne. Ouais, c'est super, on a gagné plein de fric. Puis d'un seul coup, entre deux bulles, il se dit, attends, c'est quand même pas très normal, c'est pas très moral. Il y a plein d'épargnants qui ont tout perdu, et nous, on prend du champagne parce qu'on a gagné du fric. Et là, d'un seul coup, il s'est dit, mais il doit y avoir d'autres valeurs. Et il est devenu un chercheur de Dieu. Et il a trouvé Dieu. Il a même trouvé une faculté de théologie, il a même trouvé un ministère maintenant, il est pasteur. Très spécialiste dans le livre des nombres. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Il y a un ami qui est pasteur à Toulouse et qui un jour me téléphone. Il était tout content parce qu'il me raconte, on était dans la rue, dans les zones piétonnes de Toulouse, en train de distribuer des traités d'évangélisation. Voilà. Et puis tu sais comment c'est quand on distribue des traités d'évangélisation. Les gens refusent, les gens se méfient, les gens prennent, ils jettent. Nous, on est derrière en train de ramasser, en train de replier. Ça nous a coûté tellement cher. Et j'aborde un monsieur, et ce monsieur, il regarde le tract, Il dit, ça alors, c'est incroyable. Vous alors, c'est incroyable, vous tombez à pic. Le pasteur qui tombe à pic. Parce que il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai acheté la Bible pour les nuls, je l'ai lue, et maintenant j'aimerais aller plus loin. Le pasteur dit, bah, ça tombe effectivement bien, je suis pasteur, on a des études bibliques, on a une église, si vous voulez aller plus loin, venez chez nous. C'était un chercheur de Dieu. C'est extraordinaire ça, franchement, tout le travail est fait d'avance. C'est le cas de l'eunuque éthiopien dans la Bible. J'ai quand même pris des références bibliques pour vous rassurer. Cet eunuque éthiopien qui, vous connaissez cette histoire, elle est dans le livre des Actes, c'est un ministre des finances. Les gens devraient se méfier, mais c'est un ministre des finances, pas encore en examen, qui revient de Jérusalem, où il a fait un voyage, et sans doute était-il un chercheur de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en rentrant, avant de partir, il est passé au kiosque de la gare et il a acheté de quoi lire en route. Et il est en train de lire. Il est en train de lire un texte du prophète Ésaïe. Mais vous savez, le prophète Ésaïe, ce n'est pas facile à comprendre. On nous bassine tout le temps les mêmes chapitres parce que nous, on les a bien compris. Chapitre 53, mais enfin, il y en a 66. Et le Seigneur voit cela et il se dit, oh, c'est quand même un peu dommage, il est venu à Jérusalem, sans doute était-il en quête, sans doute était-il en recherche, et manifestement, il n'a pas trouvé vraiment. On ne peut pas laisser partir quelqu'un qui est honnête dans sa recherche, on ne peut pas le laisser partir à vide. Alors il faut que je trouve un truc, qu'est-ce que je vais faire? Dieu a toujours des idées, là je vous rassure. Alors il va chercher, il ne va pas chercher Pierre, qui est évangéliste, spécialiste. Il ne va pas chercher Jean, il va chercher un diacre récemment nommé, lequel aurait pu dire, ah non, non, ça c'est pas mon ministère. Ah non, non, moi j'ai un contrat, 35 heures diacre. Non, Dieu prend Philippe, le met sur le chemin de l'homme qui rentre chez lui, et l'homme qui rentre chez lui est en train de lire, mais il lit pour comprendre. Qu'est-ce qui me fait penser qu'il lit pour comprendre? Parce qu'il lit à haute voix. Il lit à haute voix. Donc Philippe l'interpelle et dit, tu comprends ce que tu lis? Vous imaginez, l'autre jour j'ai croisé Manuel Valls, et c'était à Bercy, il était en train de trouver sa place et il allait s'asseoir à côté de l'archevêque de Paris. J'avais envie de lui dire, tous les chemins mènent à Rome, au Rome. Enfin, je me suis dit, nous on ne peut pas se permettre des trucs comme ça. Mais j'avais très envie. Vous imaginez Philippe demandant à un ministre, tu comprends ce que tu lis? Le ministre de l'Éducation nationale dit, comment, vous payons de ma tête? Qui es-tu, toi, petit juif, de rien du tout? Non, il va être honnête dans sa recherche. Il va dire, non, non, comment comprendrais-je si personne ne me guide? Allez, monte. Philippe a inventé l'autostop. Il monte à bord et il explique. Le chercheur de Dieu, quand il cherche, il faut le savoir, Dieu va mettre sur sa route quelqu'un. Vous êtes peut-être ce quelqu'un. Vous êtes peut-être ce Philippe qui allait être dérangé dans vos habitudes, dans vos agendas, entre vos cailloux, vos graviers et votre sable. Vous allez être dérangé d'un seul coup et vous allez être sur le chemin de quelqu'un. À ce moment-là, il faut être prêt, il faut être capable d'expliquer. Et puis il y a, parce que ce serait trop beau s'il n'y avait que des chercheurs de Dieu, il y a celui qui ne sait pas que c'est Dieu qui lui manque. La plupart des gens que nous rencontrons ne nous demandent rien concernant Dieu, parce qu'ils ne savent pas que c'est de lui dont ils ont besoin. Ils veulent être aimés, ils veulent être reconnus, ils veulent exister, ils veulent réussir leur vie, ils pensent que ce qui leur manque pour cela, c'est de la chance, de l'argent, des relations. Ils pensent qu'il faudrait gagner au loto. Si jamais ils viennent à l'église, c'est pour piquer les numéros de cantique pour pouvoir les jouer. Leur quête et leur recherche sont souvent mal orientées parce que le monde leur ment en permanence, en leur faisant croire que ce dont ils ont besoin, c'est naturellement telle lessive, tel produit et tel machin pour les chats difficiles. Le monde ment en leur promettant amour, gloire et beauté, un dîner presque parfait et le bonheur dans le pré. Il faut alors entendre derrière tous ces fausses attentes le vrai besoin de ces gens et attendre leurs questions, plutôt que de leur apporter des réponses à des questions qui ne se posent pas encore. C'est par exemple le cas de la Samaritaine. La Samaritaine, elle est en quête d'amour, elle est en quête de reconnaissance, mais elle vit dans une solitude monstre. Elle a peur du regard des autres. Vous avez sans doute entendu 175 prédications sur la Samaritaine. On trouve tout à la Samaritaine. Je ne vais pas y revenir. Mais avant tout, nous devons être comme Jésus face à la Samaritaine. Nous allons finalement à sa rencontre. Nous allons sur son terrain. Nous allons dans une situation d'insécurité pour nous, pas pour elle. Nous sommes à la limite dans le devoir de nous justifier. Comment toi qui es juif, me parles-tu à moi qui ne suis qu'une Samaritaine ? Être celui qui demande un service plutôt que déjà apporter une solution. Je t'en prie, donne-moi de l'eau. Soyons toujours prêts à défendre notre position, à rendre compte de l'espérance qui est en nous, avec douceur, avec respect et avec bonne conscience. C'est le texte que nous avons lu. Douceur. Ne pas brusquer l'autre, à qui nous sommes en train de dire qu'il a tout faux, s'il ne croit pas en Dieu. Je me souviens, il y a bien longtemps de cela aussi, j'étais jeune, prédicateur, j'étais naturellement tout feu, tout flamme, très content de moi, très heureux. Je faisais une rencontre d'évangélisation, c'était à Bruxelles, je me souviens très très bien. Et puis naturellement, j'y suis allé avec mes versets bibliques, « Sans vous, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. » Et j'explique un peu tout ça, qui est vrai. Mais je démolis. Et à la fin, il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit, « Vous savez, ce que vous dites, c'est assassin. » « Comment ça, c'est assassin ?» Je dis, « Oui, parce que si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, moi qui ai construit ma vie sur mes règles, sur ma morale, sur mes principes, moi qui ai travaillé correctement toute ma vie, moi qui ai bien élevé mes enfants, moi qui étais un homme fidèle à l'égard de ma femme, moi qui ai vécu tout cela sans Dieu, vous me dites que ça vaut rien. » Alors je me suis rendu compte que je n'avais pas peut-être parlé avec douceur. Avec respect, j'ai en face de moi une personne. J'ai en face de moi un être vivant, j'ai en face de moi un adulte ou un enfant, mais j'ai une personne à respecter. Ce n'est pas parce qu'elle ne croit pas la même chose que moi qu'elle n'est pas respectable. Ce n'est pas parce que moi je suis sauvé et elle est perdue selon mes critères et mes décisions, ce n'est pas pour autant que cette personne ne vaut rien. Elle a son vécu, elle a ses souffrances. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'accepter tout. Il y a une grande différence entre respect et tolérance. La tolérance d'aujourd'hui est une dictature. On parle de tolérance non pas parce que l'on respecte ce que je crois, mais parce qu'on me laisse croire, afin que chacun puisse croire comme il veut. Tu crois ce que tu veux, tu me laisses tranquille. Puisque je tolère tes positions. Respect. Et bonne conscience, être vrai, être cohérent, être authentique. Pour atteindre l'autre, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de recette. Il faut discerner comment faire au mieux en fonction de la culture et de ce que les gens qui sont en face de nous sont censés accepter, capables d'accepter. Il y a des seuils de tolérance. Il y a des amorces de rupture dans la conversation. Il faut savoir qu'à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'il faut que les gens puissent assimiler ce qu'ils ont reçu. Lorsque Paul se retrouve à Athènes, ça c'est une expérience très intéressante lorsque Paul se trouve à Athènes. On connaît Paul. C'est un type tout feu, tout flamme. C'est un type qui est entier dans sa foi. C'est un type qui rue dans les brancards quand il doit ruer dans les brancards. C'est un type qui est capable d'engueuler Pierre. C'est extraordinaire. C'est un type, je ne suis pas sûr qu'on aimerait bien l'avoir dans son église. Tellement il est dérangeant. En tout cas, pas au conseil. C'est un type difficile. C'est un type qui, quand il a quelque chose à dire, il le dit. C'est un type, quand il dit « ce type ne vaut plus rien, je le livre à Satan », vous imaginez ça? Enfin, ça, c'est pour vous montrer un petit peu le caractère. Lorsqu'il arrive à Athènes, lui, le juif, qui a tout compris, enfin, pieux, attentif, respectueux de Dieu et de Jésus-Christ, il arrive dans une ville où il n'y a que des idoles. Je l'imagine en train de bouillir en permanence. Dans le dessin animé, il y a des la fumée qui sort de partout. On se dit, il va exploser, il va casser la baraque. En fait, il va assimiler pendant 3 jours cette ambiance. Je pense qu'il tourne en rond, il s'énerve, il dit, c'est pas possible. Ah, un autre. J'imagine ça. J'imagine aussi qu'il fait taire tout cela en disant ce qui est important, c'est de pouvoir leur dire, si je rentre trop vite dans les brancards, si je suis trop vite sévère, il y aura toujours très vite cette réaction. Dès que les gens se sentent en insécurité, ils se ferment. Alors, tu sais, ce que tu crois n'est pas juste. Moi, je vais te dire, slack ! Non, mais pour qui tu te prends ? Tout de suite, on se protège. On ne veut même pas entendre plus. Ça suffit. Et là, Paul, je pense, cherche finalement comment les atteindre, comment leur parler, comment entrer dans leur ambiance. Et c'est ça ce qu'il va faire. Il va entrer dans leur ambiance. Il ne va pas emmener les gens dans son terrain, sur son terrain. Il va être dans le terrain de l'autre. Encore une fois, comme Jésus en Samarie pour rencontrer la Samaritaine. Il se met en insécurité. Vous savez, quand votre proviseur, votre directeur, votre patron vous dit « dans mon bureau », là, même si vous n'avez rien fait, vous êtes sûr qu'il n'y a qu'un truc là. Il a sûrement trouvé quelque chose. Et le patron, ben moi j'en ai connu des comme ça, il vous place derrière son bureau. Lui, il a un siège, il est haut sur son bureau. Puis vous, vous avez un siège, ouf, tout. Ah, déjà, vous êtes comme ça. Vous êtes sûr qu'il est en train de vous écraser, de sa puissance, de son autorité. Il vous a mis en insécurité. Parfois, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous avons l'attitude du patron qui écrase l'autre. Du haut de mon savoir et de ma puissance, de ma connaissance et de ma conversion, et de mon salut et de ma pureté. Naturellement, monsieur propre. Pauvre type. Bien sûr, je grossis le trait, je fais exprès pour qu'il devienne visible. Mais on rit jaune. Alors, Paul va se dire... Il faut que j'entre dans leur ambiance. Je ne vais pas d'abord dire qu'ils ont tout faux. Je vais d'abord dire qu'il y a des choses qui sont justes. Je vais d'abord dire qu'il y a des choses qui sont justes. En fait, vous savez, les gars, je vois que vous êtes vachement spirituels. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Mais ça, Paul ne connaissait pas encore la fontaine. Cela dit, je vois que vous êtes extrêmement spirituel. Je vois que vous aimez, enfin, vous avez une fibre là, une religiosité, c'est génial. Il vaut mieux ça que l'athéisme, il vaut mieux ça que l'indifférence. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, vous êtes tellement, tellement spirituel que vous avez peur d'en louper un dans votre catalogue de Dieu. Alors, il y a un Dieu inconnu. Eh bien, moi, je vais vous parler de ce Dieu inconnu. C'est une trouvaille extraordinaire de la part de Paul. Il est sur leur terrain, il entre dans leur culture. Il va tellement entrer dans leur culture qu'il va même citer les poètes grecs. Il ne va pas citer les paroles de Pierre Lachat. Ils connaissent pas. J'aime beaucoup Pierre Lachat, hein, il habite près de chez moi. Et puis il est en face de moi, là, donc. Puis je ne vais pas frapper sur l'humanitaire. Mais, cela dit, je vais vous expliquer ce Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, et là, il va prendre les gens dans leur culture. Nous allons tout de suite parler de Jésus-Christ. Tu sais, Jésus-Christ est mort pour toi. Ça, c'est valable pour ceux qui attendent le Messie, ceux qui ont une culture de l'Ancien Testament, mais pour ceux qui, comme à Athènes, n'ont pas la culture de l'Ancien Testament, ils ne peuvent pas entendre le message de Pierre à la Pentecôte. Il leur faut autre chose. Alors, plutôt que de parler de Jésus-Christ, il va parler du Dieu créateur. Ça, ce n'est pas un problème pour les Grecs, parce que la notion d'un Dieu au-dessus de tout, ça correspond à peu près à leurs critères. Ouais, là, c'est bon. On a Olympe et là-haut, on a Zeus. Le Dieu créateur. Mais le Dieu créateur, il a un fils. Bon, ça ne nous gêne pas non plus. Nous, nos dieux, ils ont des histoires de famille, je ne vous dis pas. Et là, on est dans l'ambiance et on suit, je suis d'accord. Et en fait, on emmène la personne avec ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît, ce qu'elle est capable de comprendre, ce qui entre dans une logique qu'elle a déjà en elle. Plutôt que d'arriver avec un bulldozer tout de suite. Ah bien sûr, il arrive un moment où le message est de plus en plus précis et du coup, Paul est obligé d'aller jusqu'au bout de son message. Naturellement, il ne s'agit pas de manipuler, d'entraîner les gens et leur faire croire ce qu'ils ont envie de croire. On va jusqu'à la précision. La précision, c'est eh ben, ce fils, il est mort et il est ressuscité. Et là, il y a, oulala, attends, là, c'est une notion que nous, on ne connaît pas, la notion de résurrection. Là, on ne connaît pas. Alors là-dessus, il va nous falloir un peu, on revient la semaine prochaine. Il n'a pas dit, non, moi je suis là la semaine prochaine, je ne suis pas sûr que je vais là, et puis le Seigneur peut revenir la semaine prochaine, tout de suite. Non. Et c'est le temps au temps. Nous travaillons avec l'éternel. Qu'est-ce que c'est que ces problèmes de temps? Et c'est là où je vois à quel point à la fois la volonté de transmettre, mais l'intelligence de vouloir transmettre correctement, donne un programme qu'il nous faut méditer. Poser des questions. Mettre aussi de temps en temps le point sur les i, mais pas en disant « Alors, est-ce que tu finis pas bien ?» Avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche, c'est un chercheur de Dieu. Finalement, il est bien disposé. Il vient, il pose la question « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Moi, de toute ma carrière, je n'ai rencontré personne qui est venu me voir en disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Je l'aurais béni, j'aurais empaillé. Tellement j'aurais été content de l'avoir, à tout mon tableau de chasse. « Ouais, j'ai tout peur. Enfin, Seigneur, tu m'as envoyé quelqu'un qui était prêt à recevoir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Le Seigneur sait très bien ce qu'il faut. Mais s'il dit tout de suite... Ouais, mais tu sais, ton problème, c'est l'argent. Tout de suite, le jeune homme va se protéger. Non, j'écoute pas. Il va dire, tu connais les commandements. Ouais. J'ai appris, caté, machin, etc. École du dimanche, l'école du jeudi, l'école du mercredi, toutes les écoles, je les ai faites. Je suis un spécialiste. Catéchisme, quatrième dan. Alors, tu ne mentiras pas? Tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère. Ouais, j'ai tout fait. Vous avez noté que les choses les plus importantes, Jésus ne les pose pas. Il ne dit pas, tu connais les commandements, tu n'auras d'autre Dieu que moi. C'est quand même le premier des commandements, c'est le plus important. Et là, je ne sais pas ce qui se passe chez Jésus, s'il a un problème de mémoire, mais il oublie les commandements les plus importants. Il passe au commandement où le gars peut dire « Ouais, moi j'ai tout respecté. » Et dans les commandements qu'il dit avoir respecté, il y a entre autres « Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. » Donc ce qu'il est en train de dire est juste. Et Jésus ne lui dit pas « Mon œil, écoute, on va gratter un peu, on va voir. » Non, il dit « C'est très bien. Parfait, super. Alors maintenant, tu vas vendre tout ce que tu as et tu vas le donner aux pauvres. » Et là, le jeune homme va découvrir par lui-même. Il va découvrir par lui-même où est le problème. Et nous avons à travailler à l'écoute des autres, à la discussion avec les autres, pour qu'ils découvrent par eux-mêmes, pour que ce soit leur chemin de réflexion qui les amène à. Et quand le jeune homme va découvrir par lui-même que finalement son argent est à la place de Dieu, et que donc son Dieu n'est pas Dieu, mais l'argent, alors là, ça coince. Il a très bien compris. Et quand il s'en va tout triste, c'est parce qu'il a très bien compris. Il a très bien compris. Il a décidé. Il a fait un choix. Mais il a compris. Alors moi, je rêve, j'espère que parmi les 3000 personnes qui se sont converties au jour de la Pentecôte, il y a le jeune homme riche. Je l'espère. Il a cheminé, il a réfléchi, etc. Je l'espère. Parce qu'il est honnête, il est intègre, il va jusqu'au bout. Et vous savez pourquoi j'espère ça ? Parce que d'abord, ça me fait plaisir, mais c'est surtout parce qu'il nous est précisé que Jésus l'aima. Il l'a aimé quand bien même il a refusé le message. Est-ce que nous sommes capables d'aimer les gens quand bien même ils refusent ce qu'on essaie de leur dire ? Ou bien est-ce que nous avons décidé d'aimer que ceux qui vont adhérer à notre message ? Je pose la question parce que je me souviens un jour d'une dame dans l'église, qui dit « Ah, un tel, un jeune, oh là 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 là, ce serait bien qu'il se convertisse parce qu'il serait un super responsable de groupe de jeunes. » Je dis « Mais attendez, c'est pour ça que vous voulez qu'il se convertisse, pour qu'il soit responsable du groupe de jeunes ? Est-ce que vous ne voulez pas plutôt qu'il se convertisse pour passer de la mort à la vie ? Est-ce que vous, finalement, vous aimez, vous priez pour ce gars, non pas pour lui-même, mais pour ce qu'il va apporter à l'Église ? Attendez, il y a un truc qui ne colle pas, là. On est parfois bizarre, hein ? On est parfois bizarre. Et si celui à qui nous parlons de Dieu va dans une autre Église que la nôtre, est-ce que nous pensons que nous avons mal travaillé ? Nous ne sommes pas des représentants de commerce. Il nous faut faire attention. Mais Jésus aime bien, et nous devons aussi arriver à conduire les personnes à dire où est le vrai problème. Jésus dit à la Samaritaine, va chercher ton mari. Il savait bien ce qu'il en était de la vie de cette femme. Il le savait bien. Va chercher ton mari. Ah mais, j'ai pas de mari. Je sais, dit Jésus. Je sais.
Alors si tu savais pourquoi tu m'as demandé d'aller chercher un mari.
C'est parce qu'il faut que tu chemines toi-même. Il faut que tu comprennes toi-même. Moi, je ne vais pas te conduire comme ça, d'étape en étape. Il faut que tu chemines. Parce que c'est comme ça que tu vas trouver. Tu vas trouver ton propre chemin. Quand tu trouves toi-même le chemin, tu crédibilises le chemin. Quand moi, je te propose un chemin, tu t'en méfies. Et puis, une des choses qui me semble très importante, et je vais terminer par là, c'est... Le verset du début nous disait « Soyez prêts à parler de l'espérance qui est en vous. » Nous essayons parfois de convaincre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous essayons de convaincre que la Bible est fiable. On fait même des conférences là-dessus. Mais en fait, ce qui parle le plus, c'est ce que j'ai moi-même vécu. C'est cette espérance qui est en moi, vraiment en moi. Et là, je vais vous donner quand même, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de recette, mais je vais vous donner une piste, un conseil. On n'est jamais aussi passionnant que quand on est passionné. Vous êtes d'accord avec moi ? Si vous avez un professeur qui est passionnant, vous allez être assidu à ses cours. Même si vous ne comprenez pas tout, Mais vous avez sa passion, son enthousiasme, sa dynamique, tout ça. C'est quand même mieux que le professeur qui va lire et qui va endormir tout l'amphithéâtre. Moi, j'ai connu un professeur, non seulement il endormait l'amphithéâtre, mais il s'endormait lui-même. C'est extraordinaire. Ce qui fait que dans l'amphithéâtre, c'était un calme plat. Les gens disaient, ça y est, il va s'endormir. Ça y est, on peut sortir notre tablette et puis jouer. Il dort. C'est affreux. C'est un professeur de théologie. Dans logis, il y a vie, mais lui, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Enfin bref. Mais racontez, réfléchissez un petit peu dans la Bible. Quelle est la chose qui vous a le plus bouleversé? Quelle est la chose en lisant, non pas une belle prédication, non pas une belle étude biblique, non pas un bon bouquin, même si c'est d'Éric Denis Malle. Non, ce que vous, là, en lisant, qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Qu'est-ce qui, dans un texte, quelque part, au détour d'une page de la Bible, vous avez lu un truc, là, puis vous dites, waouh, là, vous êtes scotché. Là, vous êtes obligé de dire, mais ça me parle, mais purée, qu'est-ce que ça me parle? Ça me bouscule. Je suis sûr qu'il y a au moins un épisode dans la Bible qui vous a vraiment touché. Une parole, un verset. À chaque fois que vous êtes en face de ce verset, vous dites, waouh, ça c'est vraiment parole de Dieu. Lévitique 18-21 comprend rien. Mais alors, ce verset-là, pour moi, c'est mon verset. On dirait que Dieu l'a écrit que pour moi. Cette histoire-là, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vous touche? Et là, vous allez dire à la personne qui est en face de moi, tu sais, tu chemines, tu réfléchis, etc. Moi, je vais te dire ce qui m'a vraiment bouleversé. C'est pas la théologie de la Trinité, c'est pas la théologie de la substitution, c'est pas la théologie... Non, ce qui m'a touché, c'est ça. Je te raconte. Moi, ce qui m'a touché, moi, ce qui me bouleverse à chaque fois, ce qui me fait fondre dans mes chaussures, c'est une histoire très simple, c'est une histoire que tout le monde connaît, ou presque. Et c'est pas un scoop, c'est pas un truc que j'ai découvert dans Habacuc 2. C'est la femme adultère. Tout le monde a entendu des trucs là-dessus. On amène à Jésus une femme adultère, une femme prise en flagrant délit d'adultère. On amène à Jésus cette femme, on dit, allez Jésus, dis-nous. Toi qui veux respecter la loi, toi qui es fils de Dieu, toi qui, etc. On fait quoi de ça? De ça. On fait quoi? Parce que la loi nous dit, on peut lapider. Alors bien sûr, Jésus aurait pu dire, attendez. La loi dit, si on surprend un homme et une femme en flagrant délit d'adultère, parce que quand même pour faire adultère, il faut être deux. Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien vous êtes tellement saint que vous ne le saviez pas? Il faut être deux. Alors, vous l'avez surprise en flagrant délit. Et le mec, il est où? Ah, il court plus vite. Ou bien parce que vous êtes des mecs, c'est la femme que vous avez amenée. Il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait dire. Alors Jésus va juste dire cette parole extraordinaire, fantastique, parce que Jésus avait l'art de la formule. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous êtes d'accord avec moi? On a tous entendu ça 100 fois. Et là, on se marre parce que tout le monde s'en va. D'abord les anciens. Ils ont un pataquès là. Ouh là là. Remarquez, ils sont honnêtes. Ils sont quand même honnêtes. Mais ils défilent. J'ai un truc dans le four, là, et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a encore Jésus, celui qui n'a jamais péché. Vous êtes d'accord? Celui qui n'a jamais péché. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus n'a pas simplement coincé les gens en les culpabilisant et en renvoyant chacun devant son, son péché. Jésus vient de se donner l'autorisation de jeter la pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je n'ai jamais péché. J'ai le droit de jeter la pierre en toute légitimité. Vous êtes d'accord? Et c'est là où moi je suis absolument bouleversé. C'est que celui qui avait le droit, le seul qui avait le droit de frapper, de punir, décide de pardonner. Ça, je vous assure, c'est l'histoire qui me scotche le plus. C'est l'histoire qui, personnellement, me prouve à quel point l'amour de Dieu est grand. Parce que le seul qui a le droit de frapper, de punir ses enfants, celui-là, par amour, décide de ne pas frapper, de ne pas punir. Moi non plus, je ne te condamne pas. Enfin, quand même un conseil, hein, va et ne pêche plus. Bien sûr, évidemment. Mais le coup passe à si près que le chapeau tomba. Ça, c'est Victor Hugo. La Fontaine, Victor Hugo. Voilà un certain nombre de pistes qui nous montrent un certain nombre de choses. Ce n'est pas aussi difficile que cela de parler de sa foi quand on parle de son expérience. Quand on parle de ce qui nous a touchés, et ce qui m'a touché a des accents d'authenticité, de vérité, tels que la personne en face de moi peut dire éventuellement « Écoute, ouais, c'est super, bon, moi je ne suis pas sensible à ça, mais on a de la chance. » Ouais, mais cette chance, tu peux la partager. Dire Dieu, c'est bien sûr être complètement disponible entre ses mains. Être le Philippe pour l'Éthiopien. Dire Dieu, c'est être capable d'aller sur le terrain de l'autre et d'être en fragilité. Parce que si l'autre est dans son domaine, il est plus à l'aise pour réagir, pour riposter éventuellement. En tout cas, on ne l'a pas coincé, on ne l'a pas piégé. Dire Dieu, c'est dire ce qui m'a touché. Pas plus, pas moins. Mais de l'endroit où je suis, face à ce qui m'entoure, comment vais-je répondre? Comment vais-je répondre? Et puis, comment vais-je agir? En face d'une même situation, nous pouvons avoir des réponses différentes. Mais moi, personnellement, que Dieu nous aide à être des témoins efficaces, que Dieu nous aide à transmettre correctement, que Dieu nous aide à toujours être prêt à répondre à ceux qui nous demandent des explications au sujet de l'espérance qui est en nous. Et si jamais nous en avions besoin, demandons à Dieu de renouveler l'espérance qui est en nous. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole et nous voulons te remercier parce que c'est vraiment un enseignement. Donne-nous de toujours davantage ruminer cette parole, qu'elle soit véritablement notre nourriture. Et qu'ensuite, notre parole soit un prolongement de tout ce que tu auras fait en nous. Nous te le demandons en Jésus. Amen.